Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, comment bien lutter contre les dérives sectaires ? Réorganisation ou dissolution, en début d'année prochaine, la Miviludes va rejoindre le ministère de l'Intérieur, elle qui depuis toujours était rattachée à Matignon. Est-ce le signe d'un désintérêt, d'un désengagement de l'État, comme le redoutent en particulier les associations ? Ou est-ce une façon d'acter certaines évolutions ? La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires n'a plus de président depuis plus d'un an. Et c'est la lutte contre la radicalisation islamiste qui est depuis plusieurs années déjà la priorité des gouvernements. La France, qui s'est longtemps distinguée par une politique qualifiée d'exceptionnelle vis-à-vis des sectes, est-elle en train de reculer ? A-t-on nécessairement besoin d'une forte implication de l'État sur ce sujet ? Pour en débattre avec nous, Georges Fenech, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien magistrat, ancien député Les Républicains, vous avez été président de la Miviludes entre 2008 et 2012. Étienne Ollion, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, chercheur au CNRS, auteur du livre « Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France » publié en 2017 aux éditions de La Découverte. Et Marie Drillon avec nous au téléphone, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du bureau de l'UNADFI, Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de Sectes, et présidente de l'ADFI Yvelines.
Les missions telles qu'elles sont exercées par la Miviludes, aujourd'hui, elles impliquent sans doute une meilleure synergie, un meilleur partage de compétences avec d'autres organismes qui ont vu le jour depuis 2002 et qui exercent également sur le champ des emprises, notamment des emprises mentales et autres. Et je pense notamment au secrétariat général, du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Deuxièmement, nous avons un rapport de la Cour des comptes, et vous l'avez cité, qui, en 2017, avait émis l'hypothèse d'un rattachement de la Miviludes au ministère de l'Intérieur. Troisièmement, et c'est une remarque de bonne administration, de bonne gestion, il est de bonne politique que les politiques publiques soient menées dans les ministères, bien évidemment sous l'impulsion et la coordination du Premier ministre et de son cabinet. C'est pour ces raisons, effectivement, qu'il a été décidé de rattacher la Miviludes au ministère de l'Intérieur, où ses compétences s'exerceront en parfaite synergie avec d'autres compétences exercées en matière d'emprise ou forme de radicalité.
Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, le 2 octobre dernier au Sénat. Georges Fenech, vous êtes opposé très clairement à cette évolution. Vous allez bien sûr pouvoir nous expliquer pourquoi, mais d'abord, pour que l'on comprenne bien ce changement, ce rattachement au ministère de l'Intérieur, très concrètement, ça change quoi ?
Tout.
Pourquoi ?
Ça change tout parce que l'aspect interministérialité, quoi qu'en dise le secrétaire d'État Laurent Nunez, sera très amoindri. Lorsque je présidais la Miviludes, je réunissais moi-même toutes les administrations centrales de tous les ministères et nous impulsions ensemble une politique publique en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de formation notamment, puisque la formation est très concernée par les organismes professionnels. Et donc, cette spécificité, cette interministérialité, dont se félicitait d'ailleurs Édouard Philippe dans une lettre de 2017, va disparaître d'une certaine manière, avec tout un réseau et un maillage sur tout le territoire national que nous avions, puisque dans chaque préfecture, le directeur de cabinet, pour respecter cette interministérialité, était le référent de la Miviludes. Dans chaque cour d'appel, nous avions un référent magistrat dans chaque direction de la police, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc tout ce travail d'investissement dans le territoire métropolitain et outre-mer également n'aura plus la même force, en liaison aussi avec toutes les associations qui considéraient la Miviludes comme vraiment la clé de voûte de tout ce système.
Alors justement, les associations, Marie Drillon, en tant vous-même que membre d'une association très importante, une association historique en France dans la lutte contre les sectes, vous travaillez avec la Miviludes et concrètement, même question, dans votre travail avec cette association, qu'est-ce que cela va changer, ce rattachement au ministère de l'Intérieur ?
Alors pour nous, ça donne déjà beaucoup moins de visibilité au phénomène sectaire, si vous voulez. Ça pour nous, c'est une grande inquiétude. Parce que la France avait quand même bien reconnu à travers cet organisme et ceux qui l'avaient précédé la spécificité de ce phénomène-là. Donc il y a moins de visibilité, donc nous craignons que les mouvements sectaires en profitent tranquillement, si vous voulez, qu'ils le prennent comme un peu une liberté d'asservir, quoi. On peut continuer à y aller allègrement. On voit renaître aujourd'hui dans nos associations, on retrouve des interrogations sur des mouvements dont on pensait qu'ils étaient plus présents. Mais ils étaient tout à fait présents encore et avec aujourd'hui une expression plus grande. Ensuite, pour les cas effectivement qui sont et l'autre aspect qui était important, c'était la vigilance au niveau de l'État, c'est-à-dire que à travers les informations que nous avons sur le terrain, à travers les familles des victimes qui viennent nous trouver, il y avait une possibilité pour l'État de quand même repérer des mouvements qui justement pouvaient s'infiltrer, s'installer de façon beaucoup plus large. Et c'était une centralisation, si vous voulez, d'informations différentes.
On est bien d'accord, ça ne veut pas dire, ce déménagement, cette réorganisation de la Miviludes, ça ne veut pas dire que les associations vont arrêter de travailler avec elles. Vous avez été en lien, d'ailleurs, je crois, avec le gouvernement qui vous a rassuré sur ce sujet, non ?
En tout cas, pour le moment, nous souhaitons continuer et nous avons été rassurés. Oui, nous attendons de voir comment effectivement, quels seront le personnel accordé. Est-ce qu'il y aura autant de personnes, etc. Ça, il faut attendre de voir. Mais notre volonté est bien sûr de travailler toujours sur le sujet en accord avec la structure qui sera en place. Nous le devons aux victimes, ça me paraît indispensable.
Alors cette décision, elle s'inscrit dans une histoire de la lutte contre les sectes en France. C'est l'objet de votre livre, Étienne Aulion. La Miviludes a été créée en 2002. Auparavant, il y avait une mission interministérielle de lutte contre les sectes créée en 98. Encore avant, un observatoire interministériel créé en 96. En réalité, la lutte contre les sectes en France, elle s'est devenue un sujet pour l'État, en tout cas au milieu des années 90, c'est ça ?
Oui, indéniablement. Alors, il ne faudrait pas dire que la question des sectes n'a pas intéressé les pouvoirs publics avant. Ils étaient intéressés, mais ce que montre l'histoire, c'est que c'est au milieu des années 1990 que la question va vraiment atteindre les rives de l'État et que les pouvoirs publics vont se saisir de cette question. Et ce qui va les amener à se saisir de cette question, c'est une concomitance dramatique. C'est d'un côté un rapport produit par des parlementaires qui décident de travailler sur la question des sectes et qui va être rendu au bureau de l'Assemblée nationale le 21 décembre 1995. Et quand je parle de concomitance, c'est la rencontre avec un autre événement. Et cet autre événement, c'est un suicide collectif, celui de l'Ordre du Temple solaire, dont on va retrouver les 16 membres, ou 16 des membres, dans une clairière dans le Vercors. Et la rencontre en fait entre ces deux événements va avoir un impact assez fort, parce que des massacres, il y en avait eu, des groupes qualifiés de sectes, il y en avait eu, les associations existaient depuis une vingtaine d'années. Mais cette concomitance va produire en fait une sorte d'obligation de la part des plus hautes sphères de l'État d'agir. Et on voit assez bien dans les archives comment est-ce que, avant 1995, et je vois même jusqu'à juillet 1995, des demandes des associations sont régulièrement repoussées, refusées. Par exemple, celle de...
Oui, l'UNADFI notamment, c'est ça ?
L'UNADFI, dont Marie Drilon est ici la représentante, se voit refuser une demande d'agrément public. On trouve ça dans les archives en milieu des années 1990, en 1995, agrément que l'UNADFI va recevoir quelques années plus tard. Et comme vous l'avez dit, en quelques années, en fait, va se mettre en place une véritable mécanique de lutte contre les sectes en France, qui donne en fait le point de départ de cette lutte étatique.
Alors, il y a donc aujourd'hui ce rapprochement avec le ministère de l'Intérieur et le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. On a entendu Laurent Nunez. Georges Fenech, vous dites que ce sont deux combats différents, la lutte contre les dérives sectaires et la lutte contre la radicalisation. Pourquoi ? En quoi est-ce si différent ?
On retrouve dans le processus d'endoctrinement des jeunes radicalisés ce phénomène, effectivement, de séduction, de rupture, de passage à l'acte, qu'on retrouve dans le phénomène sectaire. De ce point de vue-là, il y a des ressemblances. Mais le phénomène sectaire n'est pas le phénomène de la radicalisation. La radicalisation, c'est quelque chose de très particulier, qui est issu, on le sait, d'une histoire récente. Tandis que le phénomène sectaire, il touche à tous les domaines de la société. Pas uniquement le domaine religieux, intégriste, si je puis dire, et violent. Le phénomène sectaire touche l'éducation des enfants, beaucoup, Il y a à peu près 50 000 enfants, on considère, j'avais présidé cette commission d'enquête sur les sectes et les mineurs, qui sont impactés. Ça touche évidemment la santé, qui est devenue aujourd'hui le vecteur principal d'entrée des gourous, oui. Je dirais. C'est à peu près 40% des saisines de la Miviludes d'aujourd'hui. Ça touche le domaine économique, avec un entrisme économique réel, avec notamment le biais de la formation professionnelle, qui est détournée de ses objectifs. Ça touche la jeunesse, les sports.
Ça, on va en reparler, Georges Fenech. Mais puisque vous dites vous-même, il y a quand même des similitudes dans les comportements, donc peut-être aussi dans la façon dont ils peuvent être détectés. De ce point de vue-là, ça ne paraît pas forcément absurde. D'ailleurs, la Miviludes s'intéresse déjà depuis plusieurs années au phénomène de radicalisation.
La Miviludes s'y intéresse, bien sûr. Moi, je pense que c'est le cheminement inverse qu'il aurait dû fallait faire, c'est-à-dire transférer le phénomène de la radicalisation à la Miviludes, qui a cette expertise depuis 20 ans, qui nous est enviée par le monde entier, et non pas faire le cheminement inverse, c'est-à-dire fondre la Miviludes dans la centre qui s'occupe essentiellement de délinquance et maintenant de radicalisation. Et je regrette, moi, qu'on n'ait pas pris le bon chemin, qu'il fallait que la Miviludes s'empare de ce sujet à part entière.
Étienne Ollion, sur cette question, est-ce que c'est si important de savoir qui va chez qui, en fait, au final? Est-ce que ce qui compte pas, c'est les résultats qu'on obtient?
Du point de vue de l'État, peut-être. Après, du point de vue du signal qu'on envoie, c'est clair que ce sont des logiques qui sont assez différentes. Hein. Marie Drilon parlait tout à l'heure de la question de l'affichage. Je pense que c'est quelque chose qui est assez clair. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la France avait une position particulièrement singulière, puisqu'il n'y avait qu'en France qu'il y avait une mission en charge de prévenir et aussi de coordonner la répression contre les groupes accusés de sectarisme. Donc, il est clair que de ce point de vue-là, ça change quelque chose. Et ça change doublement quelque chose parce que la question de la présence de la Miviludes, c'est quelque chose qui a été longtemps discuté. Hein, ça fait un moment qu'on en parle. Il y a une dizaine d'années, 11 ans exactement, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, récemment installé en 2008, avait décidé de tenter de supprimer la Miviludes. Il avait lancé un ballon d'essai à travers une espèce de rencontre qu'avait eu une conseillère technique du président avec un journaliste. Elle avait dit, parmi d'autres chose que les sectes seraient un non-problème.
Et le journaliste... Oui, c'était Emmanuel Mignon.
Emmanuel Mignon, voilà. Et puis le journaliste de VSD casse le off, en fait, ce qui est assez surprenant parce qu'un gouvernement qui vient de s'installer, en général, on ne fait pas ça. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va avoir une levée de bouclier qui va permettre, justement, à la Miviludes de poursuivre son travail et d'exister. Georges Fenech en sera le prochain président. Ce qui montre bien que cette question des sectes, en fait, elle est très sensible en France et que si jamais on veut tenter de supprimer la mission interministérielle ou si jamais on veut tenter de baisser la voilure, on ne le fait pas en disant les sectes sont un non-problème, on le fait en rattachant discrètement la mission à un autre comité comme le fait à l'heure actuelle le gouvernement. Mais c'est un enterrement de première classe.
Oui, voilà, Georges Fenech nous disait juste avant l'émission qu'il considérait que c'était la fin de la Miviludes. C'est votre analyse également, c'est ce que ça veut dire ce qui est en train de se passer là?
En tout cas, c'est la fin d'un mode de régulation spécifique qui avait été mis en place, comme vous le rappeliez tout à l'heure, au milieu des années 1990, ça c'est certain.
Pour vous, Marie Drilon, je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce phénomène de la radicalisation islamiste. Est-ce que c'est devenu un sujet pour les associations comme la vôtre?
Ça l'est un peu, mais ça l'est moins que l'ensemble des autres phénomènes d'emprise que nous avons dans tous les domaines, la santé, la formation professionnelle, l'éducation, et là où c'est très large, si vous voulez, le développement personnel, le bien-être et la santé, c'est une énorme pour nos associations, c'est ça qui fait le centre. Alors, la radicalisation islamique, elle a quand même une spécificité, c'est qu'elle a un problème, un aspect géopolitique qui est tout à fait particulier, parce que radicalisation dans les mouvements que nous voyons, ce sont des radicalisations de position, de vision du monde, de religion parfois aussi, mais pas avec cet aspect géopolitique très propre à la radicalisation islamique. Mmh.
Alors, comment bien lutter contre les dérives sectaires? Je voudrais vous faire écouter Nathalie Lucas, anthropologue, directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Elle avait démissionné en 2005 du Conseil d'orientation de la Miviludes. Invitée le 3 octobre dernier de Guillaume Herner sur France Culture, voici comment elle qualifiait le bilan de la Miviludes.
C'est un bilan assez désastreux, me semble-t-il, parce que la Miviludes n'a jamais eu véritablement les moyens qui lui auraient été nécessaires pour essayer de lutter contre les dérives en question. En l'occurrence, quand vous allez à la Miviludes, pour vous donner un exemple, il n'y a absolument pas de bibliothèque. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite par la Miviludes. Il ne fallait pas que ce soit d'ailleurs un centre scientifique, avait-il été dit. Mais du coup, on ne s'est pas vraiment donné les moyens d'aller dans les groupes et de comprendre ce qui s'y passait.
Mais question, Candide, est-ce que c'est si compliqué que cela de savoir qu'un mouvement est une secte, Nathalie Lucas ?
C'est extrêmement compliqué parce que d'ailleurs, aucun pays n'est d'accord sur ce qu'est une secte.
Georges Fenech, lorsque vous étiez président de la Miviludes, et aujourd'hui encore d'ailleurs, comment est-ce que vous définissez une secte, sur quelle base ?
Moi, je me garderais bien de définir ce qu'est une secte.
Et oui, mais alors comment on lutte contre les dérives sectaires si on ne peut pas définir ce qu'est une secte ?
Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de définition juridique d'une secte, pas plus que d'une religion d'ailleurs. Et que le travail de cette mission, qui s'était recentrée sur les dérives sectaires et non plus la milice, hein, sur les sectes, c'est un travail qui met le doigt sur tous les comportements qui présentent un danger pour les familles et les individus. Les ruptures, le soin, rupture avec le soin conventionnel, rupture familiale, rupture d'une manière générale avec des discours, un discours antisocial, etc. Donc les sectes, elles ont le droit d'exister. D'ailleurs, une démocratie qui interdirait une secte, qui ne cause pas, je dirais, de troubles graves à l'ordre public, ne serait plus une démocratie. Donc la secte, c'est la démonstration même que nous sommes dans une démocratie. Mais par contre, lorsque vous entrez dans une communauté isolée, je pense à quelques-unes, on ne va pas les citer, et que vous voyez le mode de fonctionnement, c'est-à-dire un mode de fonctionnement totalitaire, où il n'y a pas de possibilité de discuter la parole du chef, n'est-ce pas ? Et que vous voyez imposer une idéologie avec des sanctions, et la sanction suprême, c'est l'exclusion du groupe où on se retrouve livré à soi-même, avec des conditions de grande précarité. C'est ça qui fait la distinction entre une société démocratique qui, elle, entend, écoute et respecte les droits d'individus, et une société fermée ou semi-ouverte ou semi-fermée comme on voudra, qui, elle, impose des règles et qui sont bien souvent préjudiciables à l'individu lui-même, et on le sait. Et moi, je vais vous dire simplement une chose. Le phénomène sectaire fait beaucoup plus de victimes et de morts que le terrorisme en France. Seulement, ce sont des morts que vous n'entendez pas. Ce sont des morts silencieuses. Ce sont des suicides. Vous avez l'air d'en douter en hochant la tête.
Mais moi, non, je me dis que c'est difficile de dire
Je vous le dis.
Il n'y a pas de liste des morts de sectes.
Non, mais nous savons, ceux qui travaillons là-dessus, nous savons le nombre de personnes et qui ont abandonné une chimiothérapie, par exemple, pour écouter les préceptes de M. Hammer, le médecin soi-disant allemand, qui préconisait une psychothérapie pour soigner son cancer, voyez-vous. Et je peux rappeler la mémoire d'Evelyne Marsalex. Un livre a été écrit sur elle, où elle s'est fait abuser par le cercle du Graal, aussi, qui est morte d'un cancer du sein. Ce sont des victimes silencieuses qui meurent. Personne ne s'en est cru. Alors évidemment, il y a eu les grands drames comme ceux de l'ordre du Temple solaire, ceux-là, on les a vus. Mais le phénomène sectaire fait énormément.
On n'est peut-être pas obligé de faire des comparatifs ou la course à qui fait le plus de
puisqu'on parle de radicalisation islamiste et qu'on veut... Je vous dis, le phénomène sectaire en soi est beaucoup plus préjudiciable à une société, voyez-vous.
Étienne Ollion, vous expliquez dans votre livre, vous, que ce qui est en jeu sur cette... Alors effectivement, il n'y a pas de définition officielle de la secte, mais vous dites qu'en France, ce qui se joue avec les dérives sectaires ou les sectes, c'est la transgression des normes établies par l'État. Précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée ?
Oui, alors il faut peut-être faire un tout petit retour en arrière. En effet, il n'y a pas de définition de la secte. Par contre, la définition pratique qui s'est imposée, parce que c'est celle qu'utilisent les agents qui au quotidien l'utilisent, travaillent dans cette question-là, les associations, l'État, c'est une question d'emprise en fait. On dit que quelqu'un est dans une secte parce qu'il est manipulé, qu'il y a une forme d'embrigadement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet embrigadement, il est considéré de manière plus forte, plus radicale en France que dans d'autres pays. Et donc ce que j'ai tenté de montrer dans le livre, c'est de poser la question, mais finalement, au-delà de cette ce drame, en fait, en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que la France a été aussi réceptive à cette question des sectes? Est-ce que c'était que 1995 ou est-ce que c'était autre chose? Et de fait, ce que je montrais et ce qu'on entendait bien dans la voix de Georges Fenech quand il rappelait les différents griefs qu'il faisait à ces groupes, c'est une question, en fait, de groupes qui vont transgresser un ensemble de normes établies. Ensemble de normes établies relatifs à la santé, ensemble de normes établies relatifs à l'éducation, vous avez parlé des enfants, ensemble de normes établies relatives à la vie en communauté, vous avez parlé de critères antisociaux. Et ce que je montrais dans le livre, en fait, c'est que sur ces trois éléments, on a en France des pouvoirs publics qui ont été particulièrement actifs sur la question de la santé, sur la question de l'éducation. L'État joue un rôle extrêmement fort et diffuse des normes qui sont extrêmement imposantes et qui du coup deviennent, sinon complètement partagées, en tout cas relativement acceptées. Alors, c'est intéressant de dire les choses ainsi, si vous voulez, parce que ça amène à se poser la question des sectes un petit peu différemment, puisqu'on se dit, en fait, est-ce que on est en train de parler de groupes qui manipulent, évidemment la manipulation c'est mal, ou alors est-ce qu'on est en train de parler, et est-ce qu'il faut pas du coup poser le débat sur est-ce que on peut ou pas dans une société, est-ce qu'on accepte que des gens cessent un traitement pour le cancer? Est-ce qu'on accepte ou pas que des gens refusent une transfusion sanguine, ce qui est son reproche aux témoins de Jéhovah? Est-ce qu'on accepte ou pas que des parents déscolarisent leurs enfants et ne leur fassent pas passer les différentes étapes les unes après les autres? Et je pense que quand on repose le débat de cette manière, en fait, mais ce que faisait déjà un petit peu Georges Fenech, on est dans une situation où on est capable de dire, ben voilà, en tant que société, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et donc on sort un petit peu de cette boîte noire, fort utile, mais boîte noire quand même, de la question de l'emprise, pour arriver sur des phénomènes extrêmement concrets.
Marie Drion, que pensez-vous de cette analyse d'Étienne Aulion, vous qui êtes au contact de victimes?
Je ne me retrouve pas complètement dans ce que je viens d'entendre, si vous voulez. C'est-à-dire que transgression des normes établies, je pense que maintenant, aujourd'hui, dans la société française, il y a énormément de personnes qui peuvent se soigner de façon différente, qui peuvent trouver une autre école pour leur enfant, qui peuvent choisir des pratiques de santé ou de bien-être ou de développement personnel variés et multiples. Je ne vois pas que l'État les empêche. Je ne vois pas très bien les normes établies et bloquant comme ça. Ce que nous voyons, nous, dans nos associations, et ce que je voudrais pouvoir rendre de la part, justement, des personnes qui viennent nous voir et qui, quand elles viennent nous voir, c'est parce qu'elles veulent dénoncer des abus. Mmh. Alors, manipulation, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est souvent des personnes qui sont rentrées tout à fait librement, effectivement, dans des directions, mouvements différents ou pratiques différentes, mais qui y ont connu des abus qui, ceux-là, sont des préjudices énormes, financiers, sexuels, professionnels, ruptures... Et un autre aspect qui est vraiment important, c'est que quand des parents sont rentrés dans des mouvances de ce style, l'embrigadement sur les enfants, ou en tout cas pas forcément l'embrigadement, mais les conséquences sur les enfants, on l'a vu dans un film récemment sorti qui est celui sur une communauté charismatique tout à fait où l'emprise était très forte, sur les enfants, les préjudices sont vraiment importants et on a aujourd'hui des enfants qui ont passé leur enfance avec des parents engagés dans des mouvements extrêmes ou sectaires, ou enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais en tout cas avec des dérives, et qui viennent, jeunes adultes, nous raconter combien ils en ont souffert et combien ils ont de mal à s'insérer dans la société après. Voilà, moi je voudrais porter cette parole-là, parce que c'est celle des familles et des personnes que nous rencontrons dans nos associations. Et je ne vois pas là-dessus qu'il y ait des normes établies, imposées. Je me suis pas retrouvée dans ce discours-là. Voilà.
On vous a entendu.
France Culture.
Non mais c'est quoi ce délire? Vous êtes même pas pratiquant.
Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques.
Mais c'est de la vie des gosses dont il est question. Merde!
C'est pas normal, Camille.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
C'est semblant.
Je veux plus faire semblant.
Pour sortir, faut qu'on se ressemble.
Le temps du débat. Chloé Cambrelin.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Vous
écoutons ta demande de pardon.
Non.
18h45, vous écoutez France Culture, comment bien lutter contre les dérives sectaires. Et c'était donc un extrait du film dont vous parliez, Marie Drillon. Le film Les Éblouis, sorti le 20 novembre dernier, réalisé par Sarah Succo à partir de sa propre histoire. On est là effectivement dans une communauté religieuse qui se revendique comme telle. Ce type de groupe a toujours existé, existe encore certainement, mais on sait effectivement qu'il n'y a pas que cela. Lorsque l'on parle de dérives sectaires, on a cité effectivement voilà, l'éducation, la santé. Ça se passe aussi désormais évidemment beaucoup sur Internet. Georges Fenech, à l'époque où vous étiez président de la Mivilude, vous misiez beaucoup sur la prévention, la formation. Comment faire évoluer ces façons de lutter? Nécessairement, il faut évoluer, non?
Oui, depuis l'apparition effectivement des réseaux d'Internet, c'est devenu aussi le vecteur principal. Vraiment principal d'entrer dans des groupements, ce qui peut être d'ailleurs des microstructures. Hein. C'est pas forcément les grandes communautés auxquelles on pense tous. Hein. C'est surtout d'ailleurs aujourd'hui des micro-groupes en fait qui sont très dangereux parce que difficile à déceler, voyez-vous. Et donc, je ne sais pas quelle est exactement votre question au fond.
Non, mais comment on adapte les outils très simplement.
Enfin, pour la prévention.
On peut pas la Mivilude et tout ça. On peut pas travailler de la même façon aujourd'hui que lorsque, même quand vous êtes vous, président, en 2008-2012
L'outil, c'est de mettre des points de vigilance là où il y a un danger, c'est-à-dire auprès des jeunes, donc je le disais tout à l'heure, avec des référents auprès des directions de la jeunesse et des sports, des gens qui sont formés, que nous formions justement à repérer les signes d'une marginalisation, des signes de désobéissance à des règles pourtant habituellement admises. Nous avions aussi dans les...
Ça ressemble aux signaux faibles dont on parle aujourd'hui
effectivement,
sur la radicalisation.
Voilà, être capable de repérer, être en capacité d'écoute également. Ça, c'est de la prévention. Et la première des préventions, d'abord, c'est effectivement l'information. Hein, il faut faire circuler l'information. Nous avions des politiques, par exemple, d'affichage dans les hôpitaux. Tout ce qui concerne les atteintes à la santé, dans les caisses d'allocation familiale, un peu partout, les familles, évidemment, il fallait les toucher par une information.
Étienne Ollion, vous voulez réagir aussi?
Oui, non, je trouve que le film de Sarah Succo, dont vous avez passé un extrait, est très intéressant parce qu'il montre bien, hein, les éblouis, comment est-ce que, quand les personnes sont dans un groupe à haute intensité, comme cette communauté charismatique qu'elle décrit, les personnes se retrouvent dans une situation où il est très difficile de partir. Les enfants, c'est une question à part qui mérite vraiment d'être traitée, j'ai entendu la remarque de Marie Drillon de ce point de vue-là, mais même pour les personnes qui seraient des adultes et qui pourraient souhaiter vouloir sortir à un moment donné, il y a une question qui se pose de comment est-ce qu'on peut faire ça, et le film restitue assez bien cette espèce d'hésitation, de difficulté, d'ambivalence. Ce qui nous amène, d'une certaine manière, à nous poser la question, à mon avis, de cette question de l'emprise et de la manière dont on lutte contre l'emprise. Alors moi, je suis pas un grand fan du terme d'emprise en soi, non pas parce que je pense que ce soit très bien d'embrigader les gens ou de leur faire subir une domination très très forte, mais plutôt parce que je pense que ça tend à mettre les individus, ça tend à mettre l'accent sur la manière dont les individus sont un phénomène très psychologique d'une certaine manière qui se passe dans la tête. Or, en fait, l'emprise, si elle peut s'exercer, c'est parce qu'il y a des conditions matérielles, des conditions sociales, des conditions économiques qui rendent les choses difficiles. Et donc, si vous posiez la question de comment est-ce qu'on lutte contre les dérives sectaires, moi, je ne suis pas spécialiste de ce point-là en particulier, mais en tout cas de lutter les manières pour offrir des possibilités aux gens de sortir de situations d'emprise, ça pourrait être comme dans le cas qu'on voit à l'heure actuelle avec des personnes qui cherchent à quitter leur conjoint violent, ça pourrait être d'offrir des moyens de sortie, c'est-à-dire des espaces où on peut sortir, trouver une possibilité, un logement à part, des moyens matériels de mise à distance, etc., etc. Et que donc vous posiez la question des moyens. Quand on repose la question de cette manière-là, on voit que cette question en fait de l'emprise peut être travaillée de toute une série de manières, et en particulier en offrant des mesures de possibilité d'éloignement pour les personnes qui le souhaiteraient. Ça a un autre avantage, hein, c'est que ça permet aussi de conserver aux gens qui souhaiteraient rester dans ces groupes en dépit de la situation dans laquelle ils sont et qui peut-être leur convient, bah de le rester et de pas stigmatiser les personnes qui veulent faire ça.
Alors il y a une dimension internationale aussi, évidemment, à la lutte contre les dérives sectaires, d'autant plus désormais avec la circulation de l'information, les réseaux, etc. Or il y a de grosses différences d'appréciation. Étienne Ollion, vous expliquez bien dans votre livre aussi que la France a longtemps été considérée à l'étranger comme particulièrement active, sévère. C'est ce que vous nous disiez aussi, Georges Fenech, tout à l'heure. Comment, à partir de là, à partir du moment où tous les pays ne considèrent pas les mêmes organisations comme sectes ou pas sectes, quand on parle par exemple des témoins de Jéhovah ou de la Scientologie pour les plus connus, même en France, selon les époques, on ne les a pas qualifiés de la même manière, selon le pays où on se trouve, on ne parle pas de la même chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver quand même une façon de se mettre d'accord pour donner une dimension internationale à cette lutte contre les dérives sectaires, ou est-ce que ça n'a aucun sens ?
Il y a une dimension européenne. Vous savez, le Parlement européen a fait un travail énorme sur ce sujet, le Conseil de l'Europe aussi, avec des recommandations. Hein. Chaque année, le président de la Miviludes se déplace à l'OSCE, à Varsovie, pour la grande réunion concernant les libertés, et fait valoir son point de vue. Donc il y a effectivement des échanges européens, et puis il y a des dialogues quand même. Moi, je me souviens qu'avec les États-Unis la Grande-Bretagne, nous y allions, nous les recevions pour expliquer, parce que ça inquiétait beaucoup, effectivement, notamment les Américains, de savoir comment l'État peut se préoccuper d'un domaine qui relève de l'intime et de la vie privée. Et on répondait qu'on ne se mêlait pas de l'intime, on ne se mêlait pas de la vie privée, ni du bien fondé d'une croyance, que la seule chose qui nous guidait dans notre action, c'était l'ordre public, la santé publique, le respect de la loi. À partir de là, nous n'étions pas liberticides. Nous respectons les libertés de chacun, mais nous demandons qu'au nom de cette liberté de croyance, on ne porte pas atteinte à d'autres libertés fondamentales, qui par exemple pour un mineur, ça vient d'être rappelé, c'est la volonté d'être le droit, convention de New York, d'un enfant, le droit d'avoir une éducation, de devenir un citoyen libre et éclairé. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui vit dans une communauté fermée, qui n'a aucun contact avec l'extérieur, qui est mal soigné, deviendra un citoyen capable d'affronter les difficultés d'une société? C'est ça la question.
Étienne Ollion, avec ce qui se passe là, la fin de la Miviludes, puisque en tout cas c'est comme ça que vous l'analysez, est-ce que la France justement va perdre cette première place, ou je ne sais pas comment dire, mais de pays particulièrement actifs en termes de lutte contre les dérives sectaires?
Oui, très probablement. Il est certain que la France, c'était de manière évidente, singularisée dans la manière dont elle luttait contre ces groupes. Et ça s'est vu très clairement au tournant des années 2000, au moment où, comme le disait Georges Fenech à l'instant, les États-Unis ont, de manière très officielle, protesté contre la politique française. On retrouve dans les archives des courriers entre Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, et Madeleine Albright, son homologue états-unienne, où en fait, ils discutent et on voit bien qu'il n'y a aucun accord sur cette question de la question des sectes, les Américains étant particulièrement inquiets. Donc voilà, dans les années qui ont suivi, on a vu assez clairement la situation être un petit peu apaisée, puisque déjà le passage de la Mills à la Miviludes a correspondu à une espèce de réduction du périmètre des attributions, hein, qui était celle de la Mills, qui avait des pouvoirs assez forts. Et puis je pense que la politique française, et c'est ce que je montrais dans mon travail, a aussi été largement déléguée aux associations. On a augmenté dans ces années-là les subventions aux associations, de manière à ce que ce ne soit plus l'État qui est à prendre en charge, mais qu'on fasse faire en fait cette activité qui était politiquement, géopolitiquement trop coûteuse.
On était là au début, milieu des années 2000. Depuis, ces subventions aux associations, arrêtez-moi si je me trompe, Marie Drillon, voilà, ont beaucoup baissé, à mesure peut-être aussi que baissait l'intérêt, l'implication de l'État dans la lutte contre les dérives sectaires. Est-ce que, Marie Drillon, est-ce que c'est cela aussi qui vous inquiète avec cette transformation, dissolution de la Miviludes, de voir vos subventions fondre?
C'est pas forcément lié, si vous voulez. La baisse des subventions à nos associations, elle est aussi une baisse des générales des subventions à toutes les associations de victimes, entre autres en France. Donc c'est pas forcément lié. Par contre, nos associations ne sont pas d'abord des associations de lutte. Elles sont d'abord des associations
d'aide,
qui accueillent des victimes et qui relaient leurs paroles. Je crois que ça, c'est vraiment important, parce que ceux qui viennent nous voir, c'est ça qu'ils souhaitent. c'est que leurs paroles soient relayées pour mettre en garde. Ceci dit, en France, on peut toujours rentrer dans un mouvement, même s'il est qualifié de sectaire. Personne ne l'interdit. Mais l'information est quand même fondamentale. Et l'information, elle vient, entre autres, de personnes qui ont vécu dedans. Ceci dit, ça n'empêche pas ceux qui veulent y rester d'y rester, sauf à partir du moment, si vous voulez, où on transgresse la loi, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans un certain nombre de ces mouvements-là, on transgresse allègrement la loi. C'est pas une question de norme.
Évidemment. Et dans ces cas-là, vous aidez d'ailleurs les victimes à aller vers la justice quand.
Absolument, voilà. Absolument, oui, il y a cette aide. Et puis, on faisait allusion tout à l'heure, effectivement, Monsieur Ollion faisait allusion à une aide de lieux ou d'endroits où effectivement des gens qui voudraient sortir pourraient aider. Alors, on essaye de le faire. C'est pas nous, c'est en accord avec des structures locales qui peuvent aussi accompagner ces personnes-là. C'est très difficile parce que, en fait, c'est une somme de cas particuliers, si vous voulez.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est important. Mais pour nous, c'est pas d'abord lutter contre les sectes, parce que là, si vous voulez, c'est pas compliqué. C'est le pot de fer contre le pot de je sais plus quoi, là. Mais en tout cas, c'est absolument impossible. Ces mouvements-là, les grands mouvements sectaires, qui fédèrent quand même beaucoup de gens qui veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, ils ont des moyens financiers que aucun d'entre nous ne peut opposer.
Il y a eu un moment, Étienne Ollion, je voulais terminer avec ça, parce que c'est important, il y a eu un moment de flottement sur les archives de la Miviludes. Leur destruction avait été évoquée. Là-dessus, le gouvernement a fait savoir, en l'occurrence à Marianne, qu'elle serait transférée, ses archives, au secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc, je m'adresse aux chercheurs, c'était évidemment inimaginable de détruire ces archives.
Mais il est toujours inimaginable pour un chercheur de détruire des archives. Après, évidemment, ces archives vont être placées au secret pour 25 ans. Donc ce sera pour les chercheurs des générations futures.
Un tout petit mot, Georges Fenech.
Un dernier mot, au moment où la Miviludes va disparaître, quoi qu'en dise le gouvernement, je voudrais avoir une petite pensée pour le petit Raphaël qui était mort à 19 mois de rachitisme dans la communauté de Tabitha's Place. Et je pense à cet enfant, à l'instant où nous terminons cette émission.
Et ce sera votre dernier mot. Merci à tous les trois. Merci Georges Fenech, merci Étienne Ollion. Votre livre « Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France » publié à La Découverte. Et Marie Drillon de l'UNATFI, le site de l'UNATFI, unatfi.org. C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille, Cyril Marchand et Louise André qui, comme d'habitude, a réuni tous les liens pour aller plus loin sur la page de l'émission franceculture.fr. À la technique ce soir, Alex Dang, à la réalisation, Alexandre Manzanares. Et puis le temps du débat, c'est surtout Emmanuel Laurentin que vous aurez le plaisir de retrouver à ce micro lundi à 18h20 à l'ordre du jour après la fin annoncée du franc CFA. La monnaie est-elle un outil de développement ?